Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec vous, ma chère Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La cavale se prolonge pour le chauffard de Lorient. Sa passagère, toujours en garde à vue, affirme ne pas savoir où il est. Une évolution dans la stratégie de Daesh, une propagande spécialement destinée aux femmes, comme le révèle un rapport d'Europol que Salomé Legrand a pu consulter. Et puis Laurent Cabrol en parlait des températures caniculaires en Corse aujourd'hui. Les écoles d'Ajaccio n'ouvriront pas leurs portes. Branle-bas de combat à Villeneuve-les-Avignon. Cette commune du Gard attend des invités de marque ce soir. La famille Obama, rien que ça. L'ancien président américain, sa femme et leurs deux filles. Tout le monde devrait atterrir à l'aéroport d'Avignon vers 21h avec à bord une quinzaine de personnes, dont de nombreux gardes du corps. Une visite ultra protégée, entourée de mystères. De quoi réjouir les Villeneuvois rencontrés par Nathalie Chevance.
C'est un luxe de discrétion qui entoure la visite de la famille Obama, qui a choisi de se mettre au vert dans cette petite commune médiévale de 12 000 âmes, pour la plus grande fierté de Fanny et Monique.
Bah c'est un honneur, oui, ça fait plaisir, peut-être qu'ils sont férus d'histoire.
Peut-être mettre quelques petits drapeaux américains, de faire sentir qu'on est vraiment très honorés, qu'ils viennent faire un petit tour chez nous.
Rien d'officiel, réplique la mairie, qui précise que la famille Obama a choisi de louer une villa. Isabelle, agent immobilier, a sa petite idée.
Piscine, mais oui, vieille bâtisse, piste d'hélicoptère... Voilà, donc ça pourrait être un bien idéal pour un président des États-Unis. Bien protégé, oui, oui.
Et en toute discrétion, dans les ruelles, des agents de sécurité américains sont déjà positionnés. Pas de quoi impressionner Pierre, patron de bar.
Je pense que je ferai un peu le curieux d'essayer de l'approcher, de le voir. L'inviter, boire un pastaga, peut-être un pastis, ou un bon vin de la région.
Grosse cote de popularité aussi parmi les touristes américains. Suzy vient du Canada.
C'était un bon président. Il a fait un impact dans le monde entier. Puis je crois qu'il y a un côté très humain chez lui.
Il s'approche là de vous, vous aimeriez lui dire quoi en anglais?
We miss you, and it's wonderful to meet you.
Et ici, tout le monde espère croiser la famille Obama dès demain pour la brocante. Villeneuve-les-Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
J'espère que la famille Obama ira visiter le Fort Saint-André, qui est juste un endroit extraordinaire à Villeneuve-les-Avignon.
Voilà, les bons conseils de Nikos. Voilà. La famille Obama qui aura en tout cas très chaud pendant sa semaine de vacances dans le Gard, et elle ne sera pas la seule. Les températures vont très nettement remonter la semaine prochaine. D'ores et déjà, on l'a dit, le thermomètre s'affole en Corse, jusqu'à 39 attendu aujourd'hui, avec en prime une pollution aux poussières venue du Sahara. Résultat, toutes les écoles maternelles et primaires d'Ajaccio vont rester fermées. Écoutez le maire Laurent Marcangeli.
Il y a une vague de chaleur très puissante qui va s'abattre sur la ville d'Ajaccio. Mais par ailleurs, nous sommes touchés depuis plusieurs jours par une vague de pollution aux particules fines. Nous avons décidé de fermer à titre de précaution les écoles parce qu'elles ne disposent pas toutes de l'ensemble des pièces aérées et adéquates par rapport à une telle vague de chaud. Les crèches, elles, sont équipées. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les laisser ouvertes. Moi, je ne veux pas prendre de risques avec la santé des enfants et on a donc décidé de fermer les écoles primaires maternelle de la ville et le privé. Il y a deux écoles également qui nous emboîtent le pas.
Le maire d'Ajaccio, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Europe 1, il est 7h04.
Cinq jours après le drame de Lorient, le chauffard est toujours en cavale.
Le jeune homme de 20 ans reste en effet introuvable, malgré l'avis de recherche lancé par les forces de l'ordre. Sa passagère, qui s'est rendue avant-hier soir, vient de passer une deuxième nuit en garde à vue. Mais pour l'instant, Hélène Terzian, elle n'aurait livré aucun élément sur le conducteur.
La procureure de la République de Lorient l'a assuré. Les policiers, une vingtaine selon nos informations, restent pleinement mobilisés pour retrouver le chauffard. Pour cela, les enquêteurs peuvent désormais compter sur l'audition de la passagère interpellée mercredi soir après qu'elle s'est rendue d'elle-même chez un particulier. Une audition que les policiers prennent avec précaution. Ils tentent de vérifier et d'exploiter tout ce que peut leur dire la jeune femme. Mais à ce stade, une certitude, son témoignage ne leur a pas permis de localiser le fuyard. Sa garde à vue est prolongée, mais la procureure Laureline Perfitte l'a martelé. La justice doit rester très discrète sur les éléments recueillis.
J'accepte de répondre à quelques-unes de vos questions, mais je ne serai pas en mesure d'y répondre forcément en raison des circonstances, c'est-à-dire l'enquête en cours, un auteur en fuite.
Les enquêteurs continuent en tout cas d'explorer toutes les pistes et comptent toujours beaucoup sur l'appel à témoins renouvelé hier pour retrouver le jeune homme. Depuis sa diffusion, il croule sous les appels. Ils en reçoivent en moyenne une centaine par jour. Quant à la piste d'éventuels complices, elle n'est pas exclue.
Hélène Terzian à Lorient pour Europe 1. Hier, un millier de personnes ont participé à la marche blanche en hommage au petit garçon de 10 ans tué dimanche et à son cousin de 7 ans, toujours dans un état grave. Nathalie Loiseau jette l'éponge. Elle ne briguera pas la présidence du nouveau groupe centriste au Parlement européen. Elle a été rattrapée par les propos fort peu diplomatiques tenus devant des journalistes à l'encontre de ses nouveaux collègues. Et puis, dans la nuit, un accord a été trouvé à Luxembourg sur un futur budget pour la zone euro. Annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui parle de percée qui aidera les pays de la zone euro à devenir plus compétitifs.
Dans un instant, on vous parlera évidemment du reste de l'actualité avec notamment le sport et le foot féminin. Mais tout de suite, le centre antiterrorisme d'Europol publie ce matin un rapport sur la stratégie de communication de Daesh, Hélène Zellani.
Oui, et Salomé Legrand a pu le consulter en avant-première pour Europe 1. Et elle en retient un virage notable et inquiétant dans la propagande djihadiste à destination des femmes.
Elles ont été soigneusement ciblées par les propagandistes de Daesh. Dans les quelques 200 vidéos et documents de communication étudiés par Europol, les femmes font l'objet d'un traitement particulier que détaille Vincent Semestre, chef d'unité au Centre européen antiterroriste.
Daesh donnait de l'espace dans ses publications afin d'insinuer que les femmes pourraient accéder à des positions de professeurs, de médecins, de personnel de la police religieuse, qu'un groupe est reconnu pour des femmes. Vous pouvez voyager seul pour venir sur zone de guerre. Lorsque vous serez là, vous aurez une reconnaissance, vous pourrez participer au combat. Et ça crée un précédent qui peut être dangereux en termes d'attractivité de femmes à un projet terroriste.
Des messages sur la polygamie ou la soi-disant nécessité de réduire en esclavage les femmes yézidis ont même été produits par des femmes djihadistes pour les rendre plus acceptables. Les spécialistes craignent que ce virage soit adopté par d'autres groupes terroristes et rende la menace encore plus durable.
Salomé Legrand. Les accusations américaines sont sans fondement. Déclaration de Téhéran ce matin. Les États-Unis tiennent les Iraniens pour responsables des attaques contre deux pétroliers en mer d'Oman. Attaques qui ont fait monter les cours du pétrole. On va y revenir à 7h30.
Peut-on présenter un sujet de thèse complexe en 3 minutes? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui.
Oui, hier soir à Grenoble, c'était la finale du concours d'éloquence. Ma thèse en 180 secondes, c'est un étudiant en musicologie d'Aix-Marseille qui l'a emporté. Écoutez le reportage de Rémi Pierre.
Une salle chauffée à blanc et sur la scène, 16 étudiants venus livrer une version détonnante de la thèse qu'ils défendront dans quelques mois devant un jury universitaire. Et pour ces 180 secondes, certains choisissent le rap.
Ma structure est sous tension, élastique, homogène, isotrope et sous pression.
Pour d'autres, c'est l'humour façon stand-up.
8 kilos ! J'ai pris 8 kilos en 16 mois de thèse.
Et pour tous, un exercice inhabituel préparé pendant de longues semaines, comme Apolline Chabenat, 3e prix hier soir pour son étude sur l'impact des antidépresseurs sur les crabes et les sèches.
C'est pas facile, parce que moi, je suis pas comédienne et on a eu le droit à beaucoup d'entraînement, surtout devant nos formateurs de médiation scientifique, mais aussi devant notre labo. Donc oui, c'est beaucoup d'heures d'entraînement.
Mais le grand vainqueur de la soirée, c'est Tom Mebarki, auteur d'une thèse sur la trans-histoire du son, qui met dos à dos Rossini et Lady Gaga. Et pour lui, ce concours a toute sa place dans ses travaux.
La recherche hermétique, c'est peu utile, disons. Donc le fait de l'enseigner, donc soit dans des amphithéâtres ou soit de la diffuser dans des événements comme celui-ci, c'est vraiment pour moi l'intérêt premier du fait même de rechercher quelque chose.
Et c'est donc lui qui va représenter la France en septembre à Dakar pour la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. À Grenoble, Rémi Pierre, Europe 1.
Et puis encore un mot du mondial de foot féminin. Les Françaises sont officiellement qualifiées pour les 8e de finale. Un effet ricochet de la défaite de l'Afrique du Sud hier soir contre la Chine.
Merci beaucoup. C'était le journal d'Hélène Zellani.